Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Benjamin Lucas, coordinateur national de Génération. Bonsoir.
Bonsoir.
Benjamin Lucas, le gouvernement a présenté officiellement cette semaine sa loi pour conforter les principes républicains. C'était le jour anniversaire de la loi de 1905. Est-ce que c'est une loi nécessaire? Est-ce que ce texte va réellement conforter les principes républicains?
Non, je crois que ce texte a un objectif, c'est malheureusement et cyniquement d'aller chasser sur les terres de l'extrême droite. C'est de mettre sur le devant de la scène médiatique un débat dans lequel les idées, les concepts de l'extrême droite vont être au devant de la scène. Moi, je ne crois pas qu'il y avait d'urgence, alors qu'en plus nous célébrons l'anniversaire de la loi 1905 et ce beau principe, je ne crois pas qu'il y avait urgence à ajouter un texte de loi qui est en réalité un texte médiatique visant malheureusement à créer à nouveau un débat qui va être qui va être néfaste, qui va être stigmatisant pour nos compatriotes de confession musulmane.
Qu'est-ce qui vous fait penser à cela ?
Ce qui fait penser à ça, c'est tous les débats qu'il y a autour. Regardez, on a rarement vu autant l'extrême droite sur les plateaux de télévision que ces derniers jours. On a rarement entendu autant de propos dignes de l'extrême droite dans la bouche de membres du gouvernement ou de la majorité. Et donc on voit bien ce que cache ce débat, c'est ça. C'est la préparation de l'élection présidentielle, de ce duel entre Macron et Le Pen. Et c'est cette espèce de vieille obsession d'une partie de nos gouvernants de considérer que pour répondre à l'extrême droite et la combattre, il faut aller sur son terrain, lui emprunter cette terre et cette terre. Et moi je le dis notamment aux dirigeants de la gauche, aussi à ceux de la droite, on ne juge pas la crédibilité d'un dirigeant politique au nombre de mots qu'il emprunte à Le Pen, même quand c'est pour la combattre. Il faut que nous soyons fermes sur nos valeurs.
Vous considérez que ce sont les musulmans qui sont visés par ce texte, pas seulement les islamistes radicaux ?
Oui, nous avons un arsenal législatif pour combattre l'islamisme radical. Il faudrait l'appliquer, il faudrait renforcer les moyens du renseignement, il faudrait donner à la déradicalisation là aussi tous les moyens nécessaires. Il faudrait faire plein de choses qui sont déjà permises et possibles par la loi. Mais on voit depuis des années, oui, qu'il y a une tentation politique de se faire un électorat à bon compte sur le dos de nos compatriotes musulmans. Et donc moi je crois en tout cas nos compatriotes musulmans vont encore être victimes d'un débat politique qui ne sert pas à la cause de l'égalité de la République.
Alors Emmanuel Macron a annoncé un Beauvau de la sécurité. Dès le mois prochain, le gouvernement va réunir les représentants des forces de l'ordre, les élus, des citoyens. Est-ce que cette réunion peut permettre de ramener la confiance entre les Français et leur police ?
Moi, quand j'étais petit garçon, j'aimais beaucoup regarder le dessin animé Babar. Et chez Babar, dès qu'il y a un problème, on crée une commission, ce qui est le meilleur moyen de l'enterrer. Et donc je constate que là où Emmanuel Macron pourrait, pour rétablir la confiance entre nos concitoyens et les forces de police, mettre en place des mesures très rapides, par exemple le récépissé de contrôle d'identité, c'est un bout de papier, et un crayon. C'est-à-dire exactement ce qu'on demande aujourd'hui à chacune et à chacun pour sortir, pour acheter sa baguette ou promener son chien. Au lieu de ça, il fait, encore une fois, de la communication, une grande opération. Pourquoi ? Pour cacher le fait que M. Darmanin est complice d'un certain nombre de dérives et pour cacher aussi le fait que ce pouvoir n'ira pas contre des syndicats policiers d'extrême droite et qu'il est aujourd'hui plus le porte-parole du syndicat Alliance, M. Macron et M. Darmanin, qu'un président de la République et un ministre de l'Intérieur qui se comportent comme tel. Et donc, pour masquer leur impuissance, ils réunissent ce fameux bureau de la sécurité. Je crois que tout ça ne débouchera sur rien, malheureusement.
Mais ce récépissé, vous l'aviez demandé à l'époque où vous dirigiez les jeunes socialistes. Pourquoi ? Ça fait des années qu'on en parle et aucun gouvernement, pour l'instant, n'a essayé de trouver une solution à ces contrôles d'identité répétés, notamment dans les quartiers populaires.
Mais je crois que c'est un manque de volonté politique criant. Par ailleurs, c'est un manque de courage aussi. Nous avons place Beauvau depuis des décennies d'ailleurs, y compris sous des gouvernements de gauche, des ministres de l'Intérieur qui ne sont pas à l'image de ce qu'aurait pu être un Pierre Joxe il y a quelques décennies, c'est-à-dire des vrais ministres de l'Intérieur, mais qui sont, comme je le disais, des porte-parole du syndicat Alliance, qui est un syndicat policier d'extrême droite. Et donc il y a une volonté de ne rien faire sur ce sujet, alors que là encore, c'est une mesure qui est là où elle a été expérimentée juste, qui correspond à une réalité, qui est qu'aujourd'hui, selon la couleur de sa peau, on peut être contrôlé 7 à 10 fois plus qu'un autre. Et voilà, donc on devrait pouvoir agir là-dessus. Les gouvernements successifs ne l'ont pas fait. Je crois que c'est par faiblesse et par peur, là aussi, de s'attirer les foudres d'un certain nombre de syndicats policiers.
Vous réclamez le départ du préfet de police de Paris, Benjamin Lucas. Pourquoi son départ est-il souhaitable ? Pourquoi ne pas réclamer, par exemple, le départ du ministre de l'Intérieur ?
Alors, nous demandons les deux. Les élus génération à Paris avec d'autres élus de gauche et écologistes ont demandé effectivement le départ de Didier Lallement, qui est responsable directement d'une mauvaise gestion du maintien de l'ordre, qui est responsable dans la provocation permanente de se comporter non pas comme un préfet de la République mais comme un chef de clan. Il avait d'ailleurs lui-même employé cette idée en disant qu'il y avait deux camps, le camp des manifestants et son camp à lui, dont on ne sait pas bien ce qu'il est aujourd'hui, si ce n'est le camp de la matraque et du LBD. Mais évidemment aussi, oui, nous demandons le départ de M. Darmanin, à plus d'un titre d'ailleurs, au regard de ce que sont les accusations graves qui pèsent contre lui en matière d'agression sexuelle, mais aussi au regard de ce qu'est sa politique de ministre de l'Intérieur qui emprunte à l'extrême droite un certain nombre de comportements, ce qui n'est pas acceptable et ce qui n'est pas conforme à la promesse d'Emmanuel Macron qui a été élu pour faire barrage à Mme Le Pen il y a 5 ans maintenant.
On a beaucoup parlé de violences policières, notamment quand on a vu les images de l'agression de Michel Zecler. Vous souhaitez une réforme de l'IGPN, la police des polices. J'ai vu que Sophie Taillé-Polian, qui est comme vous coordinatrice nationale de Génération et sénatrice, a fait une proposition en ce sens.
Oui, moi je suis très fier que Sophie Taillé-Polian, qui est, vous le rappelez, co-coordinatrice de Génération avec moi et sénatrice du Val-de-Marne, ait déposé cette proposition de loi pour une autorité réellement indépendante pour contrôler la police et qui soit placée sous l'autorité du défenseur des droits. Je crois que cela va dans le bon sens. L'IGPN est aujourd'hui une anomalie dans notre fonctionnement démocratique et dans le fonctionnement de la lutte contre les violences policières.
Alors, le gouvernement a élargi les possibilités de fichage concernant les individus considérés comme dangereux pour la sécurité publique. Police et gendarmerie pourront inscrire dans ces fichiers les opinions politiques et les convictions philosophiques et religieuses de ces individus. Est-ce que c'est acceptable au nom de la sécurité ?
Dans quel pays vit-on quand on peut ficher des opposants politiques ? Parce que c'est de cela dont il s'agit. Je crois que c'est pas la démocratie. C'est pas la République, c'est pas la France, c'est pas la France telle que nous la concevons. Et c'est là aussi, à mon avis, une dérive très inquiétante qui démontre la tentation autoritaire qui existe, qui va de pair avec l'ultralibéralisme mené par Emmanuel Macron, et qui là encore aurait pu être mené par l'extrême droite, et donc n'est pas conforme à ces suffrages que nous avons portés sur Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen. Je suis très très inquiet, parce que je crois que nous sommes devant un effondrement démocratique possible, un effondrement des libertés publiques, de la liberté de la presse, et que toutes les bonnes âmes de la Macronie se réjouissent de la défaite de Donald Trump aux États-Unis, mais même une politique qui n'a rien à envier à celle de Donald Trump.
Alors pour la première fois cette semaine, Benjamin Lucas, un match de football a été interrompu par les joueurs de deux équipes pour dénoncer des propos racistes tenus par un arbitre. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette décision venant de footballeurs et non pas de la ministre des Sports ?
Oui. Le racisme n'a sa place nulle part, et notamment pas dans les stades. Moi, j'étais très, très ému, très fier de voir cette réaction, qu'on interrompt un match de cette importance, parce que le racisme est intolérable. Et rien ne justifie qu'on continue un match de football dans ces conditions. Je regrette effectivement que ce soit les joueurs qui l'aient fait, pas la ministre des Sports immédiatement. Mais je crois d'ailleurs... polémique qui est en train de naître, lancée par Marine Le Pen, qui accuse, du coup, si j'ai bien compris ce matin sur France Inter, ces joueurs d'être des séparatistes. Moi, je crois au contraire qu'ils sont l'honneur de la République et que leur exemple doit être suivi. Je constate aussi globalement qu'un mouvement fort aux États-Unis, en France, partout dans le monde, se lève contre le racisme et les discriminations et qu'il convient à la gauche et aux écologistes de l'accompagner sans faiblir.
Il y a un combat culturel à mener aujourd'hui contre le racisme. Vous êtes né après la génération de SOS Racisme. Vous n'avez pas connu toutes ces marches dans les années 80. Vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il faut réactiver la lutte contre le racisme ?
Oui, et notamment nous voulons faire de Génération une force politique antiraciste de premier plan, une force politique antiraciste radicale, j'allais dire, dans ses réponses à ce qui est aujourd'hui un drame pour la République, une fêlure pour la démocratie. Effectivement, il y a, je crois, en matière de racisme, une tolérance zéro à avoir, et moi je regrette que trop souvent on ait avec un certain nombre d'interlocuteurs politiques racistes dans la sphère publique des tolérances. Et puis, il faut pointer les responsables. Parce que le racisme dans la société, il n'est pas lié à rien. Quand vous avez des médias tels CNews, et nous avons dit à Génération que nous n'irions plus aucun représentant de Génération n'irait sur les plateaux de CNews tant que M. Zemmour percevrait le salaire de la haine de la part de cette chaîne, il y a aujourd'hui des diffuseurs, des annonceurs, des présentateurs qui relaient une parole raciste, une parole de guerre et de haine. Et ça, c'est inacceptable. Et donc, il faut aussi pointer du doigt les responsables et les coupables de cette situation de montée du racisme dans notre pays.
Alors, selon le journal du dimanche, le gouvernement devrait établir une liste de noms de héros issus de la diversité pour renommer des rues en leur honneur. Parmi les noms qui ont été cités, Shérif Kadhi, premier musulman admis à l'école polytechnique, ou encore Joséphine Baker, chanteuse et résistante. On sait que le président Macron refuse qu'on déboulonne des statues. C'est finalement une bonne idée d'ajouter des noms dans les différentes villes de France plutôt que d'en retirer.
C'est une très bonne idée que effectivement notre patrimoine public, les noms des rues, d'un certain nombre de bâtiments, les représentations historiques qui existent dans l'espace public, soient davantage représentatifs de ce qu'est la réalité de notre République, son métissage, mais aussi de ce qu'est l'histoire du monde, de la civilisation, de la culture et des arts, et que donc on ait une représentation plus diverses, qui correspondent mieux à ce qu'est aujourd'hui la réalité de nos sociétés, à ce qu'elle a été aussi, et à l'apport d'un certain nombre de personnalités qui, si elles ne figuraient pas sur des noms de rues, c'est parce qu'il y a parfois des réflexes discriminatoires, et même souvent, et que peut-être inconsciemment aussi, un certain nombre de collectivités n'ont pas fait ces choix-là. Moi, je m'en réjouis, je pense que c'est une très bonne chose. D'ailleurs, nous avons, à cet égard, il y a aussi la question de la représentation paritaire dans l'espace public. Et moi, je me réjouis qu'avec Génération, nous ayons dans mon département de la Somme demandé que les collèges soient baptisés à parité de noms de femmes et d'hommes.
Alors, votre mouvement Génération est résolument écologiste, Benjamin Lucas. La semaine est marquée à la fois par la Journée mondiale du climat, l'anniversaire de l'accord de Paris, et le gouvernement doit répondre aux propositions de la Convention citoyenne pour le climat. L'année 2020 a été l'une des plus chaudes jamais enregistrées dans le monde. Est-ce qu'Emmanuel Macron vous semble résolu à lutter contre le réchauffement climatique ?
Nous sommes face à un effondrement climatique qui menace l'idée même de la survie de l'humanité, qui interpelle chacune et chacun de nous parce qu'il met en cause l'essentiel, c'est notre capacité à vivre dans un monde respirable. Et face à cela, on ne peut pas se contenter de slogans. Face à cela, on ne peut pas se contenter, comme le dit la ministre Pompili, que l'écologie toque à la porte des Français. Elle est rentrée dans les foyers des Français, l'écologie. Nos concitoyens sont conscients du péril climatique qui nous guette. Par contre, elle n'est pas rentrée dans les politiques publiques et les politiques gouvernementales, puisqu'en la matière, ne pas avancer suffisamment vite, c'est reculer. On sait qu'on a quelques années pour, si ce n'est inverser la courbe du réchauffement climatique, au moins en limiter les effets et les conséquences. Et donc, il faut un changement radical de modèle économique, de modèle de production. Il faut rompre avec les dogmes de la croissance, les dogmes de la production à outrance et d'une consommation exacerbée. Et pour ça, il faut un changement radical de braquet. C'est pas ce que fait le gouvernement. Et je le regrette parce que avancer trop lentement, c'est reculer en l'occurrence. Donc vraiment, moi je le regrette et je crois là aussi qu'il y a une forme de cynisme de la part de ce gouvernement. Madame Pompili était une écologiste et qu'elle cautionne aujourd'hui la politique qui est mise en place par le gouvernement en étant ministre de ces questions me rend très triste.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement pour lutter contre le réchauffement climatique ? Quelles sont les mesures les plus urgentes ?
Il faut décarboner notre économie, donc il faut changer de modèle de production, il faut mettre les moyens suffisants dans la transition énergétique à travers les énergies renouvelables notamment, il faut adapter, rénover nos bâtiments, il faut aussi repenser la place du travail, la place de l'individu dans la société, c'est ce que nous proposons avec le revenu universel d'existence qui est un instrument de transition écologique. Bref, il faut reprendre finalement toute la vie économique et sociale et démocratique pour la tourner vers l'objectif de transition écologique et sociale.
Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de la crise sanitaire pour l'écologie? On a vu de plus en plus de Français télétravailler, donc il y a eu moins de monde sur les routes, moins de monde dans les transports en commun. Est-ce qu'on peut tirer des leçons de cette expérience?
Ah oui, la crise sanitaire a montré que les dogmes productivistes et libéraux, les dogmes de la croissance, de la surconsommation, de la valorisation absolue du profit et la réussite individuel au détriment du bien collectif, tout ça a été balayé parce que dans cette situation-là, on a redécouvert l'importance de la solidarité, on a redécouvert l'importance d'une certaine forme de sobriété. Et on a redécouvert aussi que ce sont les plus riches qui polluent en même temps le plus. Et que donc la question du changement climatique est intrinsèquement liée à la question des inégalités et des injustices sociales. Donc de ce point de vue-là, cette crise, elle a éclairé ce qui n'était pas encore.
L'arrivée au pouvoir de Joe Biden le mois prochain aux États-Unis, c'est une bonne nouvelle pour les écologistes ?
Déjà, c'est une bonne nouvelle qu'on ait chasser le carbo-fasciste Donald Trump du pouvoir. C'est une bonne nouvelle qu'arrivent au pouvoir les démocrates, même si les démocrates ont leurs nuances. Moi, j'étais plutôt dans la tendance Sanders ou Ocasio-Cortez que la tendance Biden, mais c'est une bonne nouvelle, notamment pour le climat. Moi, je me réjouis, par exemple, que John Kerry ait été nommé responsable de la question climatique. Donc oui, c'est une bonne nouvelle pour les écologistes et pour la planète, surtout, que Donald Trump soit chassé du pouvoir, ne serait-ce que parce que les gens qui vont le remplacer reconnaissent la réalité du dérèglement climatique, ce qui n'était pas le cas de Donald Trump. Donc on part quand même de très très loin quand on a à la tête de la première puissance mondiale un individu qui nie la réalité scientifique du dérèglement climatique.
Benjamin Lucas, récemment, le président des Restos du Cœur a souligné qu'il y avait de plus en plus de livreurs Uber et Deliveroo dans les distributions alimentaires, des livreurs qui ne sont pas considérés comme des salariés par ces plateformes et qui par conséquent sont sans protection sociale. C'est un exemple parmi d'autres. Quelles solutions proposez-vous pour aider les personnes frappées de plein fouet par cette crise sanitaire? Mais je dirais que cette crise sanitaire n'a fait qu'aggraver une situation déjà difficile pour un certain nombre de personnes.
Nous, nous croyons au revenu universel d'existence. Benoît Hamon ayant publié un ouvrage sur le sujet, nous avons édité dans quelques jours un petit kit pour que chacun puisse défendre cette belle idée dans ses repas de famille à l'occasion des fêtes de fin d'année. Le revenu universel d'existence, on l'aurait vu, il aurait été un filet de sécurité essentiel dans la période de crise que nous avons vécue. L'idée qu'on rémunère un citoyen parce qu'il est citoyen et que donc il contribue à la vie de la société et pas simplement en fonction de son activité économique me paraît être une bonne chose, qu'en plus c'est un outil pour éradiquer la pauvreté, pour lutter contre les inégalités, c'est un outil de justice et de dignité. Donc je crois que c'est une des réponses, et une réponse centrale, essentielle, pour résoudre les problèmes que vous évoquiez, et notamment la crise sociale.
Benjamin Lucas, vous êtes aujourd'hui coordinateur national de Génération. Quel est votre rôle désormais au sein de ce parti politique cofondé par Benoît Hamon?
Eh bien, avec Sophie Taillé-Polian, qui est ma co-coordinatrice, nous sommes un binôme, nous sommes l'une des rares organisations, je crois peut-être la seule à être co-présidée par un binôme paritaire. Ben, notre objectif, c'est tout simplement de faire vivre nos idées dans la société. De faire vivre l'idée du revenu universel, de faire vivre l'antiracisme, de faire vivre l'idée qu'il n'y a pas aujourd'hui de différence entre justice sociale et justice environnementale, et puis d'œuvrer à la victoire en 2022 de l'écologie sociale, populaire et démocratique à travers le rassemblement de la gauche et des écologistes qui est indispensable pour faire face aux périls qui nous menacent avec l'arrivée potentielle de l'extrême droite au pouvoir. Donc les enjeux sont essentiels, sont exaltants. Nous avons une force importante avec Génération, qui est un beau mouvement, présent dans tous les territoires, avec des centaines d'adhérentes et d'adhérents qui sont prêts, je ne vais pas dire à en découdre, mais pas dans ce registre-là, mais à aller sur tous les terrains mener les campagnes qu'il faudra pour convaincre nos concitoyens.
L'absence d'union à gauche lors des européennes a finalement nuit à tous les partis politiques de gauche. Il faudrait organiser des primaires de toute la gauche, vous réunir pour parler des idées peut-être avant de parler des profils de candidats.
Oui, je constate d'ailleurs que la crise a démontré que sur l'essentiel nous étions d'accord. Sur l'analyse de la vie économique et sociale du pays, des enjeux qui sont devant nous, à la fois des urgences du présent auxquelles il faut répondre, la montée terrifiante de la pauvreté, le choc climatique, la perte de confiance dans les institutions et la démocratie, et en même temps les défis du futur auxquels il faut répondre, aussi pour le climat, pour la démocratie, pour la dignité, la justice sociale et la place de chacune et de chacun dans la société. On a globalement un partage essentiel. Il serait absurde qu'il y ait 2, 3, 4 candidatures de la gauche et de l'écologie à l'élection présidentielle. Je ne sais pas si c'est une primaire qu'il faut, ce que je sais, c'est qu'il faut que nous trouvions la méthode, le chemin pour nous rassembler. Sans candidature commune, nous sommes voués à l'échec et à témoigner et à disparaître politiquement du paysage, ce qui serait pas dramatique seulement pour nous, qui serait dramatique pour les idées que nous présentons dans l'espace public, l'aspiration à l'égalité, à la justice, à la dignité et au changement radical en matière d'écologie.
Merci Benjamin Lucas, je rappelle que vous êtes coordinateur national de Génération. Bonsoir.
Merci à vous.